I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Binge audio. Le matin, je mets des heures à émerger.
6h30, 9h, les matins de France Culture.
Bonjour. J'écoute les infos d'une oreille, les yeux dans le vide, une tasse de thé entre les mains.
Votre réveil soit trop brutal, mais enfin, est ce qu'il y a de neuf véritablement.
Le lundi 18 janvier 2021. Le réveil a été un peu plus brutal que d'habitude.
Les victimes d'inceste prennent la parole sur les réseaux sociaux. 10 jours après le début de l'affaire Duhamel, les hashtags MeTooInceste se multiplient sur Twitter, alors qu'un Français sur 10 serait victime d'inceste. On y revient dans un instant.
J'ai rien vu venir.
C'est un afflux massif de messages.
Il est 7h du mat. Il y a 80 000 céréales qui flottent dans mon bol. 80 000 céréales fourrées aux témoignages de victimes d'inceste.
J'ai rencontré de plus en plus de gens qui avaient vécu la même chose que moi.
La première bouchée, je l'avale un peu de travers. En 34 ans d'existence, j'ai pas le souvenir que les médias grand public aient déjà parlé de l'inceste subitement, comme ça, de manière décomplexée au petit-déj. Alors qu'avant, tout le monde s'en foutait.
Washington est barricadé.
Mais tu connais quoi, toi ? De quoi tu me parles ? Demain, tu seras passé à autre chose. Mais à la deuxième bouchée, je me sens hyper forte. Je suis plus toute seule.
J'avais 11 ans. C'était mon frère.
J'avais 5 ans. C'était mon père.
J'avais 8 ans.
J'avais 4 ans.
C'était mon oncle.
C'était mon cousin.
J'avais 10 ans. C'était ma mère.
C'est plus la honte, puisque c'est partout, dans toutes les familles.
Il me disait que c'était normal.
Effroi, trauma à vie et amnésie pendant des années.
Et en une seconde,
c'en a été fini de vivre.
J'ai eu 100 ans.
Ça y est, on en parle. On en parle vraiment. Et puis... je me suis pris la vague en pleine face. Bam, emporté par le rouleau, noyé sous l'eau. C'était trop. Trop de témoignages. J'ai coulé. 20 000 lieues sous ma chair. Un ressac m'a finalement ramené sur le rivage. Je me suis échouée sur une plage avec plein d'autres survivantes et survivants d'inceste. Un peu plus de 7 millions au total, avec nos petits gilets de sauvetage. J'en ai reconnu certains d'entre vous. Mais si, souvenez-vous, on s'est même souri. Un sourire qui voulait dire « moi aussi ». Sorti de l'océan du déni.
20 000 lieues sous ma chair. Une série documentaire de Caroline Potier. Épisode 5. Moi aussi.
Une fois qu'on a pris la parole, comment on fait pour vivre avec ? Je sais pas ce qui serait le bon mot. C'est pas guérir, on n'est pas malade. C'est pas être sauvé, c'est pas se libérer. C'est peut-être déjà moins souffrir. On n'est pas condamné à rester avec nos traumatismes. Des techniques thérapeutiques, des protocoles, il en existe d'innombrables. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on ne veut pas nous écouter ? Quand il n'y a pas de procès ? Quand notre détresse n'est pas reconnue par la police et la justice ? Qu'est-ce qui nous reste ? Quand nos proches ne savent plus comment nous aider ? Comme le dit l'autrice Christine Angot, nous, les survivantes et survivants d'inceste, bah on se débrouille. Moi, une fois que j'ai été mise en sécurité, j'ai essayé de faire 2-3 trucs pour plus me noyer, pour respirer, pour sortir la tête de l'eau. Ça m'a peut-être pas sauvée, mais ça m'a soulagée. Certains se tournent vers des thérapies cognitives et comportementales. Elles sont préconisées par la Haute Autorité de Santé depuis 2007 et sont recommandées pour la prise en charge du trouble de stress post-traumatique et les amnésies traumatiques. L'une de ces techniques, c'est l'EMDR, pour Eye Movement Desensitization and Reprocessing, l'intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires.
On va réactiver les souvenirs des événements traumatiques pour leur permettre, une fois pour toutes, d'être réenregistrés correctement.
Docteur Mélanie Voyer, psychiatre, responsable du Centre Régional de Psychotraumatisme Nord-Nouvelle-Aquitaine.
Comme un événement du passé, on n'a pas de technique thérapeutique qui permette d'oublier, d'effacer. Ça fera partie de leur histoire, mais ce ne sera plus quelque chose qui reviendra et qui s'imposera à eux, qui prendra toute la place dans leur quotidien. Donc ces thérapies centrées sur le trauma, c'est des thérapies brèves. Alors brèves, entre guillemets, parce que quand on a été confronté à plusieurs épisodes de violence, même si ça n'a pas duré des années, eh bien, il y a souvent plusieurs souvenirs. Donc on va travailler sur les différents souvenirs. Mais en tout cas, habituellement, ce qui est recommandé, c'est entre 10 et 20 séances vraiment de thérapie centrée sur le trauma pour permettre le traitement des différents souvenirs qui restaient encore émotionnellement très chargés.
Moi, je me suis tournée vers des thérapies plus classiques, basées sur la parole. De mes 15 à mes 25 ans, j'ai consulté 5 spécialistes, psychologues, psychiatres et psychanalystes. Je leur laissais peu de chance si le courant ne passait pas ou s'il me paraissait à côté de la plaque. Et puis ça coûtait cher. Entre 30 euros la demi-heure et 60 euros les trois quarts d'heure. J'avais pas les moyens. J'ai arrêté assez vite. J'ai remis l'inceste sous le tapis pendant 10 ans, jusqu'à faire la démarche volontaire, assumée et mûrie, de trouver la psychologue qui me suit encore actuellement. Je voulais que ce soit une femme, près de chez moi, avec de l'expérience en accompagnement de victimes de violences sexuelles et recommandée par une personne de confiance. Je voulais qu'elle soit interventionniste, c'est-à-dire que je voulais avoir affaire à une professionnelle qui me parle pendant les séances, contrairement à ceux qui disent rien, ou pire, qui sous-entendent que l'inceste, c'est un fantasme. C'est un espace à moi, où il m'est possible de dire tout ce que je ne peux pas dire aux autres concernant l'inceste. La honte, la culpabilité, la difficulté à faire confiance, à dire non, la tendance à l'auto-sabotage, l'inadaptation sociale ou professionnelle, et ce truc de « quand ça va un peu trop bien dans ma vie, il faut tout que je foute en l'air ». Avec cette psychologue, j'ai l'impression de dénouer une pelote et d'avancer petit à petit dans le tricot de ma vie. Alors bien sûr, prendre soin de soi a un prix. Je vis avec 1400 euros par mois, seule, mais s'il faut choisir entre un resto et une séance psy, je choisis la séance psy. C'est devenu ma priorité. Si je fais un calcul rapide, je dirais qu'en 3 ans de suivi avec ma thérapeute actuelle, j'ai dépensé 1360 euros. Si j'ajoute à ça les dépenses effectuées plus jeunes, je dirais que j'en ai eu pour 2100 euros en soins psy au total. En discutant avec d'autres victimes d'inceste, je me rends compte que c'est pas tant que ça. Car la fourchette varie plutôt entre 3000 et 30 000 euros pour une thérapie. Et devinez quoi ? Ces soins ne sont pas remboursés. À part si vous passez par un CMP, un centre médico-psychologique. Mais le plus souvent, il faut attendre des mois pour obtenir un rendez-vous. Pourquoi ce serait encore aux victimes d'inceste de payer de leur poche leur réparation sur le plan psychologique ? « Cette étape qu'on appelle le travail sur soi, c'est juste une partie du chemin vers la reconstruction. La grande route, on doit la construire collectivement, avec toute la société. L'État, les institutions, les médias. Parce que l'inceste, c'est un problème de santé publique. Il faudrait le régler avec de l'argent public. Après la déferlante MeToo Inceste en 2021 et la parution du livre de Camille Kouchner, La Familia Grande, qui révélait l'inceste de son frère jumeau par leur beau-père, le sujet a pris tant de place dans les médias que notre gouvernement a été obligé de faire quelque chose.
Ces témoignages, ces paroles, parfois ces cris, plus personne ne peut les ignorer. Et c'est aujourd'hui à nous d'agir. Tout faire pour arrêter maintenant les violences sur nos enfants, car tout ce qui semble anormal doit pouvoir être dit.
Il a donc missionné un groupe d'expertes et d'experts chargés de diagnostiquer le problème et de trouver des solutions. C'est ainsi que s'est créée la CIVIS, la Commission sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Elle a par exemple modélisé tout un parcours de soins adapté aux victimes d'inceste, spécialisé sur le psychotraumatisme. Et surtout, elle préconise que ce parcours soit pris en charge financièrement par la solidarité nationale. En 2021, la CIVIS lance un appel à témoignages dans toute la France. En 3 ans, elle en recueille plus de 30 000, à l'écrit mais aussi lors de rencontres publiques organisées une fois par mois dans des grandes villes du pays. J'ai tenu à assister à l'une d'entre elles, car me retrouver avec autant de personnes concernées, c'était quelque chose d'inédit.
En fait, je suis comme l'albatros de Baudelaire. Moi, je suis quelqu'un de complètement bancal. Je ne sais pas comment vivre.
21 septembre 2023.
Je ne sais pas comment être avec les autres, comment aimer. Enfin, c'est quelque chose qui est... C'est comme si je n'avais pas eu le mode d'emploi où mon père avait déchiré le mode d'emploi et il avait déchiré mon corps, mon sexe, mon âme.
On n'est peut-être pas 7 millions ce soir-là, mais 450 au Palais de la Femme à Paris. La salle est remplie d'hommes et de femmes venus partager un vécu, entendre le récit d'autres qu'ils ne connaissent pas et trouver des réponses à leurs questions insolubles.
Merci.
La voix qui leur répond est celle de l'ancien coprésident de la CIVIS, le magistrat Édouard Durand. Recueillir autant de témoignages, c'est indispensable pour mieux appréhender les situations d'inceste et mieux y répondre. Et aussi pour mettre au jour des situations qui sont encore plus taboues que le tabou. Par exemple, que les agresseurs peuvent aussi être des agresseuses ou d'autres enfants.
Bonjour. Bonsoir. J'ai 52 ans et demi. En fait, je suis venue aujourd'hui parce que selon moi... Mais je pense que j'ai des certitudes même qu'il y a des cas d'inceste dont on parle trop peu. J'ai été victime d'inceste par l'une de mes cousines. J'ai été mineure. Elle était mineure. Mais plus âgée que moi, il n'y avait pas de consentement de ma part. C'est forcément un inceste incontestable.
On a du mal à l'imaginer, mais selon un sondage Ipsos de 2023, les viols commis par des frères, des sœurs, des cousins ou des cousines, le plus souvent mineurs, représentent 42% des cas d'inceste. Et pour l'instant, notre loi appréhende très mal ces cas-là. Par exemple, si vous avez été agressé par votre cousin ou votre cousine, ce n'est pas considéré comme un inceste.
Je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas des cas d'inceste entre des enfants mineurs, des cousins, mais des cousines, j'insiste sur le féminin. Vraiment, j'insiste sur le féminin. Voilà.
Merci, madame, de votre témoignage.
Cette femme insiste sur le féminin, car oui, en grande majorité, les agresseurs sont des hommes, mais dans 16% des cas, ce sont des femmes qui incestent.
J'ai pu m'en sortir de ma grand-mère, qui était violente autant sur le plan sexuel, physique et psychologique. Pour ne donner qu'un seul détail, Sa manière de me « maintenir sage », entre guillemets, c'était de me menacer de mort à l'arme blanche. Et elle me disait que le jour où j'oserais parler de quoi que ce soit qui se passerait à la maison, ce qu'elle faisait parfois à mes habits quand elle perdait le contrôle, c'est-à-dire les déchirer un à un devant mes yeux, elle le ferait à moi et à mon corps.
Et si dans les deux tiers des cas, ce sont des petites filles qui sont agressées, les petits garçons représentent 35% des victimes.
Et même encore aujourd'hui, j'ai des sortes de pulsions, de violence pour d'autres, pour moi. Quand je fume ma clope à la fenêtre, tout le temps, en fait, je me dis, je saute, je vais tomber.
Les incestes d'enfants sur un autre, les incestes commis par des femmes, les incestes commis sur des garçons, ce ne sont que quelques exemples des zones d'ombre que recouvre l'inceste.
Je suis arrivée à Paris faire des études et je me suis prostituée. Ça me paraissait super bien, parce que c'était exactement ce que j'avais déjà vécu, mais j'étais payée en plus. Alors c'était incroyable, le gars il payait de ce qu'il avait fait.
Merci madame de votre témoignage. Comme toutes les personnes qui sont autour de vous, vous êtes une guerrière.
Je suis sortie de cette rencontre un peu sonnée. Je repense à celles et ceux qui ont tout lâché au micro et qui se sont rassis sur leur chaise, les yeux dans le vide. Je me demande si ces personnes sont bien entourées une fois rentrées chez elles.
Moi, j'ai vu que les photos que tu m'as partagées.
J'ai connu des cadres plus doux et sécurisants pour témoigner et me reconstruire. Comme les groupes de parole de l'association En Parler. Ils ont lieu une fois par mois en petit comité et en mixité choisie, dans certaines grandes villes de France. La participation est gratuite. Seule une adhésion annuelle à l'association est demandée à prix libre.
Donc, les groupes de parole, ce qui est important ici, c'est l'écoute, le respect, la bienveillance, le non-jugement, c'est important, le refus de l'injonction, et puis la confidentialité, donc ce qui est dit ici reste ici.
Marie-Josée Hay, présidente de l'association En Parler.
C'est un espace où justement on arrive à parler, donc c'est bien de le laisser aussi ici. Ça fait un bien fou. Voilà, donc on va faire un petit tour de table. Je me présente, je m'appelle Marie-Josée, j'ai été victime enfant.
J'ai fait la démarche de m'engager dans ces groupes de parole à un moment où je me suis sentie très seule, où je m'étais heurtée aux limites de l'écoute auprès de mes proches et même des professionnels qui avaient pu m'accompagner jusque-là. Je me suis tout de suite sentie à ma place. Et ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à ressentir en général.
Donc tu t'inquiètes pas, ici on rigole et on pleure. Et l'objectif, c'est de pouvoir être soi-même. D'accord ? Voilà. Quelqu'un veut rebondir sur trouver un espace, un endroit où on peut justement être soi-même et dire ce qu'on a à dire comme on a envie de le dire ?
Dans ce groupe, après m'être beaucoup confiée, j'apprends aussi à écouter. Il y a quelque chose de très particulier qui se crée. Nous sommes des femmes et des hommes de tout âge, de tout milieu socio-professionnel, de toutes origines. On ne se serait probablement pas adressé la parole au quotidien. Et pourtant, on parle le même langage. Alors je vais vous proposer de nous écouter, maintenant, sans nous interrompre.
Donc moi, c'est Olivier, j'ai 32 ans. J'ai été violé par mon cousin de mes 10 à 12 ans. J'ai mis ça sous le tapis très rapidement parce que déjà, je ne savais pas vraiment ce qui s'était passé. Et c'est à 23 ans que tout est ressorti d'un coup. Et je ne sais pas comment j'ai arrivé à faire ça, mais j'ai appelé mon cousin immédiatement en sachant que ce que c'était. À 23 ans, j'avais mis le mot viol sur ce qui s'était passé pendant cette période-là. Je l'ai confronté,
Il a tout nié. Enfin, il a reconnu que ça s'était passé, mais pour lui, c'était juste un jeu et ça reste un jeu. Et c'est moi qui en fais. Enfin, voilà, c'est à cet âge-là, quand on a 8-10 ans, garçon-fille, en fait, on reste des enfants avec son innocence et on a tous perdu cette partie-là quand on a été victime à ce moment-là. C'est aussi compliqué, oui, de faire le deuil de ça aussi, quel que soit, voilà. De se dire, c'est une partie de moi qui est perdue à jamais, il faut que je tourne la page et que, à côté de ça, il y a cette violence sexuelle, impacte aussi, la sexualité. Enfin, moi, mon adolescence, la découverte de la sexualité, l'éveil, j'ai eu un éveil complètement en miettes, quoi. Enfin, c'est-à-dire que, à 10 ans, d'un coup, tu découvres la fellation alors que tu sais même pas ce que c'est. Enfin, c'est quelque chose de complètement hallucinant, en fait. Cette découverte du sexe, ça aussi, il faut que je l'accepte, de dire que faut faire avec, quoi. C'est-à-dire que ça m'arrive encore dans des moments de consommer du porno violent pour extérioriser ce genre de choses, parce qu'en fait, il y a des moments où faut que ça, pareil, cette colère, cette frustration, je la canalise comme je peux, donc ça passe par ce genre de choses-là, et à la fois ça me soulage et ça m'écœure en même temps. Enfin, il y a quelque chose de très 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 étrange, très bizarre, et même ça, avec le psy, j'ai du mal à en parler, ce genre de choses. Et même mon copain, c'est un sujet tabou avec lui, je ne parle absolument pas de ça. Donc c'est là aussi, le groupe de parole aide énormément. Moi, je suis un peu dégoûté de ne pas avoir découvert la sexualité à mon rythme, en fait. De ne pas avoir eu ça, quoi. De ce truc, de se poser des questions lentement, progressivement, quoi. C'est venu d'un coup à 10 ans et ça a tout détruit, quoi. Et le pire, c'est que je ne le regardais pas en face, ce truc. C'est un truc que tu mets sous le tapis pendant 12-13 ans. Et en parallèle, pendant le sens, je réalise que j'aime les garçons, mais pareil, famille catholique pratiquante, ça n'aide pas, disons-le simplement comme ça. Donc il y a tout s'en mêle, en fait, et il y a personne à qui en parler, et c'est un long moment de solitude enfoui, et on arrive à s'en sortir par je ne sais quel miracle, mais c'est fou.
La parole d'Olivier m'a touchée. Ce qu'il explique sur les difficultés qu'il rencontre dans sa sexualité ou dans la construction de son identité homosexuelle, ce sont des mécanismes qui ne sont pas étudiés. Alors que la part des personnes LGBT qui ont été agressées sexuellement ou violées par un membre ou un proche de leur famille est plus importante que celle des personnes hétéros.
Ce qui m'a touchée dans ce que tu as partagé, Olivier, c'est j'aurais aimé découvrir ça autrement, la sexualité. Et moi, quand j'avais 9 ans, à l'école, j'ai appris la chanson « Les copains d'abord ». Et à un moment, je ne sais plus à quel moment, mais je crois qu'il parle de Gomorre ou de Sodome, un truc comme ça. Et du coup, ce week-end-là, j'étais chez ma maman, j'étais un week-end sur deux, et elle n'était pas encore arrivée, donc c'est mon beau-père qui me gardait. Moi, elle était partie momentanément. Et j'ai fait l'erreur de lui demander qu'est-ce que c'était Sodome. Et au lieu de m'expliquer vaguement que ça avait un rapport avec la Bible, il y avait plein de façons de l'expliquer à une enfant de 9 ans. Eh bien non, j'ai eu un cours sur la sexualité, mais hyper trash, donc le cuni, la fellation, la sodomie, tout ce qui pouvait être possible de faire, même des pratiques, j'avais pas besoin de savoir tout ça. Et moi, ce jour-là, je me suis dit, ça a l'air vraiment affreux, jamais, jamais, jamais j'aurai de relation sexuelle avec quelqu'un, c'est beaucoup trop effrayant. Et c'est un truc qu'il a instillé petit à petit sur mon corps, la sexualité, la façon dont il me regardait, les comparaisons qu'il faisait avec ma mère, des vêtements qu'il m'achetait, des chatouilles. Et en fait, quand je me suis faite violer à 16 ans, j'ai pas réalisé, je l'ai compris il y a pas tellement longtemps, en fait. Mais je pense que, en fait, ce qu'il m'a fait, mon beau-père, par rapport à la sexualité, ça m'a directement menée dans les bras de mon violeur. Je pense que ça n'aurait pas pu se faire autrement. Et du coup, quand je me suis fait violer par ce gars-là, qui était mon copain quand même, quand je me suis fait violer par ce gars-là, j'ai pas compris ce qui se passait, de quoi il me parlait. J'étais tellement perdue. Et à un moment, il montre un préservatif et dans ma tête, je me demande, mais c'est quoi ce machin tout rond? J'arrivais même pas à comprendre de quoi on me parlait. Et aujourd'hui encore, je me rends compte que quand on me parle de sexualité, même de trucs tout bêtes, je fais « mais en fait, je sais pas de quoi les gens parlent. » J'ai un vrai blocage et il y a même des mots que j'arrive pas à prononcer. Par exemple, j'arrive à dire vagin, mais j'arrive pas à dire ton truc à toi, quoi. C'est hyper dur pour moi. J'ai honte, je suis toute rouge. Quand je suis. Des fois, ça me donne même envie de pleurer et je me dis, mais c'est dingue, quoi. Alors que j'adore faire l'amour avec mon chéri. Je trouve ça merveilleux, super cool, on s'éclate, c'est super. Mais quand je suis en public, en entendre parler, ou même pendant longtemps, quand il y avait des scènes un petit peu. Même sans que ce soit porno, hein, même quand il y avait des scènes un petit peu érotiques à la télé, j'étais toute gênée, je me tortillais. Et ça m'emmerde. Parce que je vois bien que je suis en décalage aujourd'hui avec les gens qui en parlent autour de moi, sans que ce soit glauque. Hein. Des fois, on en parle entre copines et ça pourrait être super sympa. Mais en fait, moi, je passe vraiment pour la teubée, qui n'y connaît rien. Et ça m'emmerde, parce que les gens qui sont pas sympas se moquent de moi. Mes copines, elles ont compris maintenant que j'étais pas très... que j'étais coincée avec ça, ou enfin que j'étais pas très bien. Donc elles m'expliquent toujours. Mais c'est chiant d'avoir besoin de ce décryptage permanent. Parce que des fois, les gens font des blagues et tout le monde rigole, et moi, je suis la seule à pas rigoler, quoi. Et en fait, j'ai honte, en fait, de ça. J'ai honte de pas arriver à comprendre, d'être tout le temps en décalage. Et moi, pour ça, je suis hyper en colère contre mon beau-père. Parce qu'en fait, il m'a privée d'une découverte normale, sympathique, tâtonnante. En fait, j'ai pas eu droit à ça. Et ça, c'est un truc que j'aurais plus jamais, du coup. Et ça me fait vraiment chier, quoi. Je suis en colère, je me dégoûte pour ça. Voilà.
Ma sexualité, mon plaisir, mes désirs ont aussi été impactés, mais différemment. Ce qui a pu m'arriver de pire, à mon niveau, c'est de voir le visage de mon père à la place de celui d'un de mes partenaires pendant un rapport sexuel. Quelques secondes seulement, assez pour me pétrifier. Par moments, j'ai aussi ressenti de la culpabilité à prendre du plaisir sur des zones qui avaient été abîmées par mon père, ou lors d'actes qui avaient déjà été pratiqués par lui.
Moi, je vis ma sexualité aujourd'hui avec les images de tout ce qui m'a fait faire de ces jeux. Aujourd'hui, je peux dire obscènes, qui sont... je crois qu'il y a que 2 ans que j'ai dit à ma psy tout ce qu'il m'avait fait faire. Je comprends pourquoi j'ai eu tellement de mal à avoir une sexualité, que ce soit avec un homme ou avec une femme d'ailleurs, parce que la perversité de cet homme-là, je me suis construite sur ça. L'incapacité d'avoir une vie ressenti physique normal. Et en fait, je crois que c'est le plus gros fardeau que je porte encore aujourd'hui. Parce que toute ma relation à l'autre, ma relation physique à l'autre, elle est avec les odeurs et les images de tout ce qui m'a fait vivre. C'est ça le plus compliqué, je dirais. C'est peut-être pas du sexe, d'accord, mais ça a un impact sur ma sexualité bien au-delà de ce que les thérapeutes peuvent comprendre. Et sur les personnes avec qui j'ai vécu, avec qui j'ai essayé d'expliquer, parce que mes réactions, qui sont des fois même au-delà de ce que moi, parce que ça part, quoi. Je sais pas où je vais, mais ça a été trop violent. Et mon cerveau, là, il switch entre la petite fille qui a fait un certain nombre de choses et l'adulte qui trouve ça innommable. Donc la honte que j'ai de moi, ce sentiment de culpabilité, ce sentiment de honte, de rejet de moi, il est normal.
Tous ces partages d'expériences constituent un savoir. Ces informations qu'on s'échange ont tout intérêt à être transmises aux professionnels de santé pour qu'ils apprennent à mieux nous prendre en charge. C'est ce qu'on appelle la paire aidance, s'aider entre pairs, P-A-I-R-S. Il existe des structures où des victimes de violences sexuelles sont intégrées au parcours de soins d'autres victimes, pour les aider à dépasser leur traumatisme et pour aiguiller les professionnels dans leur pratique. C'est ce que fait Marie-Josée Hay, la présidente de l'association En Parler, au Centre de psychotraumatologie de Bordeaux.
Alors, je puise sur mon expérience personnelle. J'ai fait un DU, patient formateur au parcours en soins chroniques. J'ai développé énormément de pathologies et je n'ai pas été prise en charge correctement. Donc, je parle de mon parcours parce qu'aujourd'hui, je suis capable d'en parler. Mais j'utilise toutes les expériences et tous les témoignages que je peux recueillir dans les groupes de parole, quels qu'ils soient. C'est quelque chose que j'expose dans les formations. Quand je viens parler de la parole de victime, soyez là, entendez, écoutez, croyez ce qu'on vous dit, essayez de trouver les causes de la problématique.
Il n'y a pas de recette, de formule magique pour traiter un trauma causé par l'inceste ou toute autre violence sexuelle. Mais rencontrer et s'entraider entre personnes qui ont vécu le même traumatisme, c'est avoir accès à une grande boîte à outils où l'on peut piocher ce dont on a besoin. Moi, c'est auprès d'autres victimes que j'ai fabriqué une liste des petites choses pour vivre mieux avec l'inceste. Pour me faire du bien dans les moments où ça me rattrape. Des contacts de professionnels fiables, des réflexions sur comment obtenir réparation et des astuces. Voici mon top 10. Regarder le soleil, voir la mer ou l'océan à toute saison, nager, faire du vélo, marcher pour me vider la tête au grand air, cuisiner quelque chose de bon, passer du temps avec des personnes positives, lumineuses, sans forcément parler de ce qui ne va pas, danser, câliner un chat, prendre un bain, dormir et chanter.
Je chanterai toute ma vie. Silence, je pousserai le soleil, j'embrasserai mes ennuis, de mes cendres je renais très vieille.
D'autres passeront par le mouvement, le corps, pour se réparer. Moi, j'ai fait plusieurs expériences d'art-thérapie, dont une par le modelage intuitif. En gros, t'as un bloc de terre devant toi et tu laisses tes mains tremper, glisser sur l'argile, sans savoir à l'avance ce que ça va donner. Une fois, c'est une orchidée qui est sortie de terre. Une orchidée avec deux grands pétales et deux petits pétales qui paraissent très fins sous les doigts. L'argile est douce, elle prend l'apparence d'une peau, puis d'une muqueuse qui colle un peu, moite. L'orchidée a une langue que mes doigts prennent plaisir à lisser, à humidifier. C'est comme si je restaurais une zone où le plaisir était honteux et qui méritait une nouvelle éclosion. Ces stages et expériences sont utiles et libérateurs, en tout cas pour moi. Mais parfois, certaines personnes victimes d'inceste ont besoin d'aller plus loin. De renouer avec leur identité en effaçant le nom de famille de leur agresseur, pour toujours. Changer de nom pour ne plus appartenir à cette lignée qui nous a violentés est une procédure aujourd'hui simplifiée, rapide et gratuite. En tout cas, si vous voulez prendre le nom de votre autre parent. Si vous choisissez un nom d'emprunt, cette démarche est plus longue et coûteuse. Cette idée m'a traversé l'esprit à plusieurs reprises, mais je suis jamais allée jusqu'au bout. J'ai voulu le faire avant la sortie de ce documentaire, par exemple. Je voulais marquer un nouveau départ. Mais prendre un autre nom, ça faisait pas sens. Garder le patronyme de mon père, c'est une façon pour moi de confronter toute sa lignée. De mettre toute notre famille face à ses responsabilités. Face à l'inceste. En partageant toutes ces expériences, en côtoyant toutes ces survivantes et tous ces survivants d'inceste, j'ai gagné des points de vie. Je vois un peu notre parcours de réparation comme un jeu vidéo. À passer des heures à chercher des solutions pour passer au niveau suivant. Avec des cases bonus qui vous font avancer, qui vous renforcent. Et d'autres qui vous font rétrograder. Pire, qui vous condamnent. Game over. Il n'y a plus qu'à tout recommencer à zéro. Alors, il faut passer la phase de découragement et vous dire « Allez, j'y retourne !» Ou pas. Ou plus tard, quand vous vous sentirez prête, prêt. Sauf que quand vous y retournez, il y a toujours le moment où vous devez affronter le grand méchant, celui qui fait trois têtes de plus que votre personnage. Pour finir le jeu, il faut toujours tuer un monstre. Le monstre. Cette image du monstre, c'est souvent celle qui est donnée pour représenter les incesteurs, les violeurs, les agresseurs. En tout cas, chez moi, c'est comme ça qu'on appelait mon père. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'y confronter pour gagner? Montrer qu'on s'en est sorti et qu'on est plus fort que lui? Et puis, ça fait quoi si je finis pas la partie?
À suivre dans Le cœur sur la table.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.